BFM Business présente...
Tous les jours, j'entends quoi? De nouvelles solutions, de nouvelles entreprises, de nouvelles levées de fonds. Mais c'est extraordinaire. Mais
vous j'ai dit, il y a un vrai souci, il faut créer de l'emploi.
Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit.
Il suffit d'écouter BFM Business.
Voilà, magnifique.
Guillaume Paul, Audrey Tcherkov, Good Evening Business.
Allez, un peu plus de 19h, on est reparti. Deuxième heure de Good Evening Business en direct jusqu'à 20h. Rebonsoir Audrey.
Rebonsoir Guillaume et rebonsoir à tous.
Les agriculteurs mettent de nouveau la pression sur le gouvernement. Alors, ils n'iront pas à l'Elysée demain après-midi, c'est tout un symbole. Ils iront quand même voir Gabriel Attal demain matin. Le ton risque d'être assez franc. On va voir tout ça, bien sûr, dans un instant avec Pauline Tadevin.
Alors, on va aussi parler de mauvaises nouvelles pour Atos. C'est le feuilleton qui continue. Vous savez qu'Airbus négocie le rachat des activités Big Data et cybersécurité. Il semblerait que ça puisse tomber à l'eau. On va voir ça avec Mathieu Pechberti dans un instant. On reviendra aussi sur les dernières annonces de Bruno Le Maire qui, depuis 24 heures, nous dit qu'il faut enfin sortir de l'État-providence.
On parlera tout ça avec nos experts qui reviennent dans 10 minutes. Qui sera avec nous ce soir? Deux économistes, Nathalie Janson, Neoma Business School, Christophe Rameau, la Sorbonne, les économistes atterrés, puis le communicant Jackie Isabello. Ça promet encore des débats endiablés, mais comme tous les jours.
Des accords et des désaccords. Exactement. À tout de suite.
Good evening business, le journal.
Donc attention, les agriculteurs sont de retour. Les syndicats ont donc annoncé samedi qu'ils n'iraient pas à une réunion prévue demain du côté de l'Elysée. Ils iront quand même demain matin voir Gabriel Attal à Matignon, mais... Le mot d'ordre désormais est le même et bien identifié. Tout ça ne va pas assez vite, clairement. Pauline Tadevin.
Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation, juge le ministre de l'Agriculture dans les colonnes du Républicain Lorrain. En déplacement ce lundi dans l'Est, Marc Fesneau assure qu'il entend les impatiences, mais que le gouvernement avance. Ce qui pouvait être fait l'a été, explique-t-il. Mais dès lors qu'on a besoin de changer la loi, on est sur un pas de temps qui ne peut pas être celui des heures ou de la semaine. Réponse aux agriculteurs, notamment au patron de la FNSEA, qui exige que les choses aillent plus vite sur l'élevage, la trésorerie, la simplification ou encore sur les retraites. Le report d'une réforme pour le calcul de la retraite des agriculteurs juste avant le week-end a mis le feu aux poudres. La venue du premier syndicat agricole à l'Elysée ce mardi a été reportée. Il sera quand même reçu dans la matinée avec les jeunes agriculteurs par le chef du gouvernement, en attendant peut-être de reprogrammer une réunion avec le chef de l'État.
Pauline Tadevin, dans l'actualité ce soir, le dossier Atos, ça se complique encore un peu plus. Vous savez que Airbus négocie avec Atos depuis quelques semaines pour lui racheter ses activités Big Data et cybersécurité. Et bien, d'après les informations de BFM Business, ces négociations s'enclenchent mal. Elles pourraient même ne mener nulle part. Mathieu Pechberti.
On a eu plusieurs contacts au sein des deux groupes et qui effectivement nous expliquent que de toute façon ces négociations traînent depuis maintenant deux mois. Les négociations ont toujours été décrites comme difficiles. Airbus a toujours été, on va dire, prudent pour ceux qui veulent le verre à moitié plein et extrêmement réticent pour les autres. Airbus craint d'abord des pertes, en tout cas des fuites de talents, d'ingénieurs importants dans ses activités de cybersécurité. Il craint également sur la rentabilité des supercalculateurs. Vous savez, ces machines, ces ordinateurs extrêmement puissants perdent de l'argent, consomment beaucoup de cash et Airbus a toujours été très réticent à les reprendre en même temps que les activités de cybersécurité. Et Airbus mène depuis maintenant plusieurs semaines des études extrêmement approfondie et ça semble pas les rassurer. Et ce n'est pas qu'une question de prix, parce qu'on s'est toujours dit effectivement, les acteurs du dossier se sont toujours effectivement méfiés de ces sons de cloche en disant que c'était un jeu de négociation, mais selon une source proche du dossier, nous explique que le dossier n'avance pas du tout dans le bon sens et que ce n'est même plus une question de prix. L'air de dire que les négociations sont en train de déraper. Alors est-ce qu'il y aura un énième rebondissement dans les jours à venir? Atos doit publier ses résultats mercredi et faire un point sur ses négos. Est-ce qu'elles vont être relancées ou prolongées pour espérer un ultime accord, ou est-ce qu'elles vont totalement échouer? C'est la grande question, mais en tout cas, ça semble mal parti. Si jamais Atos ne parvenait pas à vendre ses activités, on risque de se diriger fortement vers une procédure de sauvegarde judiciaire. Je rappelle qu'Atos est aujourd'hui placé sous l'égide d'un mandataire ad hoc qui est Hélène Bourboulou, et qui va devoir trancher sur l'avenir d'Atos dans les semaines à venir.
Voilà, Mathieu Pechberti avec nous sur BFM Business. Écoutez ce que nous disait il y a quelques instants Fabrice Brégier, qui est aujourd'hui patron du Réassureur Score, mais qui a dirigé, bien sûr, Airbus pendant de nombreuses années. Lui pense que cette opération quand même aurait du sens. Écoutez.
Airbus, dans l'activité de défense, a une activité de cybersécurité. Et donc, c'est assez logique qu'il regarde. Mmh. Ensuite, les négociations, visiblement, achoppent dans le cadre de ce qu'on appelle la due diligence. Ça, c'est la vie des affaires. Et pour faire des acquisitions de cette nature, eh bien, il faut que la direction générale et le conseil d'administration soient alignés.
Oui. Sur quoi peut porter le désaccord ? Même si vous connaissez
peut-être
pas,
sur le niveau de risque, sur le niveau de prix. Moi, ce que je sais, c'est qu'Atos a une bonne réputation dans le domaine de la cyber, ce qui n'est pas forcément le cas de tous ses métiers, et qu'il est extrêmement important de trouver une solution nationale ou au moins européenne pour accueillir l'activité cyber qui est véritablement le cœur stratégique hein, du Big Data.
Voilà, Fabrice Brégier, patron de Score, ancien patron d'Airbus, qui était avec Edwige Chevrillon. Il y a quelques instants sur BFM Business, 19h07, on voulait vous dire un mot du palmarès du Michelin, parce qu'il y a 62 nouvelles étoiles qui viennent de tomber. Il y a un restaurateur qui fait très fort. Bonsoir Alexandra Paget.
Bonsoir.
C'est la table du Castelet dans le Var emmenée par le chef Fabien Ferré qui gagne d'un seul coup 3 étoiles. C'est absolument rarissime. Au-delà que ça, Alexandra, ce qui est intéressant de rappeler, c'est que gagner ou même perdre une étoile au Michelin, c'est un enjeu économique absolument colossal.
Mais oui, Guillaume, je vous rappelle au passage que les rétrogradations ont, elles, été annoncées bien en amont pour ne pas gager la fête à tel point. C'est important, ces étoiles. Les chiffres sont très clairs. Une étoile entraîne des répercussions directes dans le bilan financier d'un établissement. Obtenir le précieux sésame va dynamiser le chiffre d'affaires de 80% en moyenne sur 3 ans. Les prix augmentent en effet de 25 à 30%. Le carnet de réservation, évidemment, se remplit à vitesse grand V. Les investisseurs viennent dîner. À l'inverse, quand un restaurant perd une étoile, il voit sa rentabilité passer de 3% à moins 2%. Taïwan, par exemple, qui a perdu sa troisième étoile en 2007, n'a pas réussi à effectuer les investissements nécessaires pour garder le niveau. Il a perdu la deuxième en 2019. Alors, comme pour tenter de toucher les étoiles, il faut investir, parfois c'est extrêmement lourd. Le guide rouge a beau jurer ne noter que le contenu des assiettes, le jugement des critiques est souvent influencé par la situation géographique ou le standing de l'enseigne, évidemment. Accrocher une étoile supplémentaire, c'est environ 1,5 million d'euros d'actifs immobilisés et souvent autant de prêts bancaires à rembourser.
Évidemment, voilà, l'univers impitoyable de la restauration avec ses étoiles. Donc 62 nouveaux étoilés ce soir en France, dont cette performance rarissime, encore une fois, hein, le chef Fabien Ferré. La table du Castelet dans le Var qui gagne 3 étoiles.
Et il a moins de 40 ans.
Il a moins de 40 ans, effectivement, même 35, voilà. Plus jeune chef français, triplement étoilé. Merci beaucoup, Alexandra Paget. 19h09, on retourne sur les marchés. Tout de suite, je vous rappelle la clôture ce soir à la Bourse de Paris, le CAC 40 qui cède 0,2% à la clôture. Bonsoir Étienne Braque.
Bonsoir,
comment ça se passe du côté de Wall Street?
À l'inverse, c'est du vert grâce à la tech. Nvidia qui fait une fois de plus l'actualité et qui fera l'actualité ce soir puisque dans 2 heures, c'est le coup d'envoi de la conférence développeurs. 16 000 développeurs, rendez-vous compte, qui vont se réunir ce soir pour découvrir la nouvelle puce d'Nvidia qui va bien sûr être un nouveau game changer pour Nvidia qui va encore allonger les délais puisqu'aujourd'hui il faut 3-4 mois, alors c'est mieux que les 6 mois d'avant, mais pour avoir une puce avec bien sûr le groupe qui a 80% de part de marché, le titre gagnait quasiment 3% de l'ouverture désormais, c'est une hausse de 0,5%.
Ça va venir plus court que les événements d'Apple, ces astuces.
Ah bah oui, très clairement, Apple qui fait l'actualité aussi aujourd'hui puisqu'Apple est un petit peu en retard par rapport à cette IA, mais d'après Bloomberg eh bien, vous avez un partenariat qui est en train de se jouer entre Alphabet, la maison mère de Google, et puis Apple afin d'implémenter Gemini, vous savez, c'est l'IA de Google, afin de le mettre dans les iPhones. Donc tout ça porte Alphabet qui repasse devant Amazon, 5e capitalisation mondiale, la valeur gagne quasiment 5%, Apple gagne 2%, et puis enfin un dernier mot de Tesla, parce que le groupe a annoncé plusieurs baisses de prix, souvenez-vous, depuis l'année dernière, et là aujourd'hui, notamment sur le modèle Y, ils remontent leur prix de quasiment 1 000 $, que ce soit aux États-Unis mais aussi en Europe, il y a des hausses de prix qui vont se faire, ça profite à la valeur qui gagne quasiment 5%, avec bien sûr des marges qui se sont fortement dégradé chez Tesla ces dernières années, et tout ça bien sûr, eh bien ça fait pas le figure sur le cours de Tesla qui a été divisé par 3 par rapport à ses plus hauts historiques.
Merci beaucoup Étienne Braque avec nous sur BFM Business. 19h11, nous on revient dans un instant avec nos experts, encore beaucoup de choses ce soir, et Bruno Le Maire sur la fin de l'État providence. On en parlera longuement, bien sûr, avec nos experts jusqu'à 20h. Le CETA vers un rejet, peut-être, jeudi. Ça a mis hors de lui le ministre du Commerce extérieur, Franck Riester. On vous racontera ça. Et puis la Russie, Vladimir Poutine réélu dans un fauteuil. Oui, mais l'économie russe résiste. Que faut-il faire? Taper encore plus fort ou attendre que le temps fasse son œuvre? On parle de tout ça, entre autres, jusqu'à 20h. À tout de suite.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
19h15 sur BFM Business. Alors, se dirige-t-on vers la fin de l'État-providence? Eh bien, c'est la question que l'on pose tout de suite à nos experts du soir. Nathalie Janson, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur à Neoma Business School. Jacques Isabello, bonsoir.
Bonsoir Audrey, bonsoir Guillaume.
Fondateur du cabinet Parlez-moi d'Impact. Et nous sommes avec Christophe Rameau qui va nous aider à penser l'alternative. Christophe, c'est le titre de votre dernier ouvrage édité chez Fayard. La couverture va s'afficher. Vous êtes enseignant-chercheur au Centre d'économie de la Sorbonne. Peut-être un mot sur l'ouvrage.
Ouvrage collectif. Hein,
nous collectif, alors justement précisé.
Membre des économistes atterrés. Et donc, voilà. Et donc le sous-titre, c'est « Réponse à 15 questions qui fâchent ».
Ah, eh bien voilà une question qui fâche.
Il n'y en a que 15
ça fait pas beaucoup.
En France, toutes les questions fâchent.
Une sous-question. On verra ça, on en parlera tout à l'heure.
Voilà, ça s'affiche à l'écran. Donc, une question qui fâche. Est-ce qu'on se dirige vers la fin de l'État-providence en France? En tout cas, les propos de Bruno Le Maire inquiètent, ont suscité beaucoup de commentaires. Le ministre de l'Économie le répète, Guillaume, il faut reprendre la main sur le système.
C'est presque un sujet de bac. Non, ce qu'il a dit, il faut mettre fin à l'État-providence. Ça ne veut pas dire non plus détricoter massivement tout ce qui va avec. Écoutez Bruno Le Maire sur ce sujet encore ce matin.
Je crois en un État qui protège. Je crois à notre modèle social. Je crois à l'hôpital public. Je crois à l'école publique. Je crois à la nécessité de protéger les plus faibles. Je crois qu'il serait bon, on rembourse aujourd'hui les fauteuils roulants. Je pense qu'il serait bon de rembourser tous les fauteuils roulants de ceux qui n'ont pas d'autre choix que d'avoir des fauteuils qui sont faits sur mesure et qui vont coûter 6 000, 7 000, 8 000 euros. Voilà ce à quoi je crois. En revanche, je ne crois pas à l'accumulation de dépenses année après année qui deviennent des acquis sur lesquels on ne bouge pas. Quand nous mettons en place, avec le président de la République et le Premier ministre, un bouclier de protection tarifaire contre la flambée des prix du gaz et de l'électricité, le jour où la flambée des prix du gaz et de l'électricité a fini, eh bien on retire ces aides. C'est ça la différence entre un État providence qui accumule les dépenses et qui ne revient jamais dessus. D'ailleurs, aucune opposition n'a voulu revenir sur le bouclier tarifaire, sur le gaz ou sur l'électricité, là où nous avons pris la responsabilité de le retirer, et un État protecteur qui, lui, protège quand c'est nécessaire, face au Covid, face à l'inflation, et je suis fier de la protection que nous avons portée à ce moment-là. Et lorsque la situation revient à la normale, nous rétablissons les comptes pour que l'État puisse continuer à vous protéger.
Alors, rétablir les comptes publics, évidemment, on est tous d'accord avec ça sur ce plateau, mais où est la planification? Où est le plan d'action? Je vous rappelle qu'en février dernier, Bruno Le Maire annonçait un objectif d'économie de 10 milliards, que quelques jours après, le ministre du Budget disait qu'il fallait doubler, que quelques jours après, la Cour des comptes disait qu'il fallait tripler, que par ailleurs, le gouvernement a revu la projection de croissance à la baisse. On est passé de 1,4% à 1%, sauf qu'aujourd'hui, on a un budget qui est construit sur 1,4, et que par ailleurs, ce 1% reste toujours supérieur au consensus des économistes. Enfin, on va où? Où est le cap?
C'est dans son livre, Audrey, alors il faut acheter le livre.
Alors, est-ce un livre ou une déclaration de candidature pour 2024?
Comme l'a dit Bruno Le Maire ce matin, il n'est pas politiste. Nous ne sommes pas politistes. Alors, les journalistes politiques lui poseront la question de savoir s'il est candidat. Mais, moi, je trouve que son message était clair. Je suis pour un État protecteur. Mais je ne suis plus pour un État-providence. Je suis le premier à avoir souvent dénoncé, comme le disait Pierre Gattaz, les zigs et les zags de Bruno Le Maire dans tout un tas de domaines. Mais on parle souvent de la dette publique ici. Moi, je suis le premier à m'en inquiéter très fréquemment. Et souvent, je vous dis, je crois à la fonction politique et la fonction politique doit jouer son rôle de chef. Là, ces messages sont clairs. Il dit on a protégé pendant très longtemps, maintenant nous sommes surendettés, les dépenses sociales, ça fait partie de notre modèle, personne ne veut le sacrifier, c'est 850 milliards chaque année en augmentation permanente. Et il faut maîtriser tout ça. Et donc qu'il fasse passer ce premier message de dire aux gens il y a sans doute plein de choses qu'il faut réduire, ça me paraît limpide. Après, est-ce que en 2027 il va se protéger? Alors là, je change de casquette et je prends une casquette de commentateur un peu politique comme vous voulez. Je pense que Bruno Le Maire, il a un truc en tête, c'est que s'il veut devenir président de la République, il ne peut pas finir le gouvernement en 2027, changer la casquette en disant maintenant c'est la suite et c'est Bruno Le Maire. Il faut qu'il sorte de ce gouvernement. Pour sortir de ce gouvernement, il faut se trouver une trajectoire qui soit osée, celle-là, en tout cas, elle pourrait emporter un certain électorat est bien identifié.
Non, mais elle est claire, elle est osée. Mais il n'y a pas de stratégie derrière tout ça. On est dans le rabot et puis les économies de bout de chandelle. Voilà, quand vous voyez les premières pistes qui commencent à circuler en vue d'économiser les fameux 20 milliards d'euros dans le budget 2025, il n'y a pas de cap, Christophe. Alors je veux bien que le message soit clair, mais s'il n'y a pas de stratégie derrière,
où est-ce que... Non, il y a un vrai cap. Il y a un vrai cap.
C'est les économies de bout de chandelle, vous voyez bien.
Non, mais je parle de son interview. Il y a un vrai cap quand il dit. C'est un Thatcher à la française, si tant est que ça fasse moderne. Comment dire. Le problème qu'il y a, c'est que M. Bruno Le Maire est ministre de l'économie.
Oui.
Et que le job d'un ministre de l'économie, c'est pas d'étaler sa morgue, et quelque part derrière la morgue, il y a toujours un peu la vacuité. C'est de faire œuvre de pédagogie vis-à-vis des concitoyens. Or, quand il dit l'État. J'oppose l'État-providence à l'État-protecteur. Ça laisse entendre que l'État-providence n'est pas protecteur.
Oui.
C'est quand même proprement hallucinant. Alors, la pédagogie maintenant, c'est quoi? Il y a simplement un quart de la dépense publique qui sert à payer des services publics. Ça n'a pas augmenté depuis 40 ans. La part des salaires versés aux fonctionnaires, en comptant les cotisations sociales, ça n'a pas augmenté depuis 40 ans. Ça représente 12-13% du PIB. Ça n'a pas augmenté depuis 40 ans. Ce qui a augmenté depuis 40 ans, ce sont des prestations qui sont versées aux ménages, donc remboursement des soins, qui bénéficient à l'industrie pharmaceutique, aux médecins libéraux, les retraites. Voilà, c'est ça qui a augmenté. Mais donc, ce qu'il faut dire, c'est que les trois quarts de la dépense publique, ça n'alimente pas des fonctionnaires, ça va dans la poche des ménages. Et je vais vous citer un chiffre que peut-être des économistes libéraux qui sont sur ce plateau ressortiront à d'autres occasions. Écoutez bien.
Allez-y.
Parce que c'est un chiffre peu connu. J'ai commis une chronique dans Alternative économique sur le sujet. C'est un chiffre très peu connu. Ouais. Quand on additionne en France, mais ça vaut d'une certaine façon dans d'autres pays, mais quand on additionne en France les prestations sociales, ce qu'on appelle les prestations sociales en espèces, donc les retraites principalement, mais aussi les allocations chômage, les allocations familiales, etc. Plus ce qu'on appelle les transferts sociaux nature, dans lequel il y a le remboursement des médicaments, et puis il y a la consommation de services publics individuels. Mais vous savez quoi? La somme de tout ça, c'est un chiffre très peu connu, c'est supérieur à la somme des salaires nets que touchent près de 90% des gens qui travaillent en France. Nous vivons dans une économie mixte, dans lequel il y a du marché, et c'est très bien qu'il y ait du marché d'initiative privée, mais dans lequel aussi, on a décidé, le livre de Bruno Le Maire s'appelle Voix française.
Oui.
Moi, du point de vue de l'histoire de France, j'y vois plutôt une certaine forme, si je puis m'autoriser ça, une certaine forme d'anti-France. Alors je termine peut-être sur un tout petit point. L'État-providence, et c'est là qu'il y a de la vacuité, l'État-providence, c'est pas simplement la protection sociale ou les services publics. Historiquement, dans tous les pays du monde, c'est aussi des politiques macroéconomiques, dont des politiques de politique industrielle, de domestication de la finance, de protection commerciale. Et là, bien entendu, Bruno Le Maire ne le conçoit pas, hein, puisqu'il est pour le libre-échange,
puisqu'il
n'est pas pour domestiquer la finance.
Bah, attendez, Christophe, il est dans son couloir de nage. Non, mais ceci dit, juste. Non, mais Nathalie, parce qu'avec des dépenses. Je rebondis sur ce que Christophe vient de dire, puisqu'il a cité Alternative Économie. Avec des dépenses plus publiques qui approchent les 65% de la richesse nationale créée, est-ce que vous dites, comme Jean-Marc Silvestre, qui l'a écrit ce matin, que la France est plus proche d'un État communiste que d'un pays géré sous démocratie libérale?
Je ne reprendrai peut-être
pas. Ça m'a fait sourire.
Oui, c'est très drôle. Ceci dit, il y a tellement d'interdictions aujourd'hui sur ce que vous pouvez faire en tant qu'entreprise qu'on y est presque. Hein, parce que là, on a quand même une accumulation de trucs complètement dingo dernièrement. Alors, tu n'as pas le droit de baisser ton prix là. Tu dois faire comme ça. Enfin, c'est quand même infernal. Tu dois construire comme ça. Ta maison, elle doit consommer ça. Enfin, moi, je trouve ça horrible. Et c'est vrai que d'entendre de la bouche de Bruno Le Maire qu'il veut, il veut mettre fin à l'État-providence, j'ai vraiment beaucoup. Il me fait rire, quoi. Je suis là, ah bon, toi qui veux régler les prix des étiquettes des supermarchés, tu me dis que t'es contre l'État-providence. Alors là, attention, j'ai pas bien compris.
Ça s'appelle le pragmatisme, Nathalie.
Oui, alors, on est bien clair.
Ça s'appelle le retournement de veste aussi. Oui.
Je suis d'accord avec Jacqueline Isabelle. Ouais. Je pense qu'effectivement, clairement, il veut se donner une posture. Là, on est bien d'accord. Je serais aussi d'accord avec Christophe Rameau, puisque, effectivement, je pense que opposer État-providence à État. Enfin, veux dire, je vois pas en quoi l'État-providence, il est forcément protecteur, l'État-providence, donc c'est mal choisi. Ouais. Bon, je ne reprendrai pas les termes de Christophe Bramont, parce que je pense qu'il est très très loin de Margaret Thatcher, qui avait une connaissance très fine de l'économie, et justement des modèles philosophiques de l'économie.
C'est dit. Ben,
il a rhabillé pour le printemps.
Bien, bravo.
Et que lui, en fait, il vogue à, voilà, c'est un peu avuniste, il va, effectivement, il est plutôt à droite, mais enfin, pour avoir une articulation théorique, on en est bien loin. Enfin,
là, il plône voilà. Un véritable changement de logiciel, sachant que vous êtes dans une économie, l'économie française, exactement, qui ne progresse, qui ne fait de la croissance qu'à terme.
Oui, c'est ça, c'est ça.
On voit du fait d'un endettement
supplémentaire. On voit bien le chef de la conjoncture de l'INSEE ce matin qui nous disait depuis 2019, en fait, le PIB est 3 points inférieur à celui de sa projection de croissance qu'il aurait dû atteindre en 2019. Donc on perd 67 milliards si on comparait aujourd'hui à la projection de croissance de 2019. Non, Bruno Le Maire n'est plus, à partir de ce matin, et dans les lignes de son livre, le ministre d'Emmanuel Macron, il commence à dessiner une voie qui va lui imposer, eh bien, de se positionner très rapidement. Jusque-là, comme n'importe qui, il avait un chef et il exécute, eh bien.
Alors vous le voyez vous le voyez claquer la porte d'ici quelques mois.
Non, mais je pense que ce monsieur qui a quand même de grandes ambitions, qui a été plusieurs fois ministre, qui a battu le record de longévité, quasiment toutes catégories confondues, en tout cas de celui du poste de ministre de l'économie et des finances. Il n'y a pas besoin de sortir Sciences Po Paris ou de toutes les autres Sciences Po pour comprendre qu'il a d'autres ambitions. Il a à peine 55 ans.
C'est clair.
Il fait du sport, il écrit des livres en 2-2 à 5
aussi.
Du mat.
Ah ouais.
Et en plus, il cuisine. Et en plus, il a des idées sur la sexualité. Donc vous voyez, c'est à peu près tout faire. Et qui vous disent, maintenant, je vais vous présenter mon projet. Ce qui est sûr, si on se place uniquement de l'analyse au niveau de la science politique, c'est qu'il ne pourra pas continuer comme ça. Il est obligé de passer par une zone de dégrisement.
Alors,
et donc,
justement,
il sera obligé de sortir pour laisser Emmanuel Macron gérer la fin de son quinquennat et lui positionner son offre politique auprès des gens. Et l'économie, évidemment, ça va faire partie de son logiciel, puisqu'il l'a occupé dans la tête des gens pendant...
Non, mais justement, parce que ce qui est intéressant dans le nouveau chemin qu'il est en train de tracer, c'est qu'il dénonce la droite classique à laquelle il appartient, et ça va vous plaire, Christophe Rameau. Il met en cause quand même, très clairement, le logiciel keynésien qui consiste à penser que l'État peut tout et surtout à penser que l'État peut tout payer.
Vous savez, moi je suis pour réduire certaines dépenses publiques, je suis pour qu'il y ait moins de pauvres. Alors le RSA ça coûte pas très cher, ça coûte que 13 milliards, vous voyez ce que je veux dire, par rapport à la dépense publique on est à moins de 1%. Mais le problème de Bruno Le Maire, j'insiste sur ce point, c'est l'État-providence, si vous voulez, il y a quatre piliers, je dis toujours, dans l'État-providence. Il y a la protection sociale, il y a les services publics, il y a le droit du travail, et il y a les politiques économiques, politiques industrielles, commerciales, et tout ça tient ensemble. Et le problème qu'on a depuis 40 ans, c'est que, au nom de politiques néolibérales, qui ont été portées à gauche et à droite d'ailleurs.
Ben justement,
d'accord,
oui.
Donc, c'est pas à la rigueur l'enjeu. Hein, c'est que, qui ont été portées par une certaine gauche et par une certaine droite, le pilier qui a vraiment été profondément remis en cause, c'est le pilier politique économique, au niveau de certains volets de la politique économique, finance libéralisée, libre-échange, austérité salariale, contre-révolution fiscale, voilà, c'est là-dessus qu'on... Et donc, pour le coup, ça déstabilise complètement les opinions. Alors, un point de pédagogie à nouveau, si je puis me permettre,
Audrey.
La dépense publique, ça équivaut à 55% du PIB. Mais il faut vraiment s'inscrire dans la tête que la dépense publique, c'est pas une part du PIB. Vous savez, quand on calcule la dépense privée, comme on calcule la dépense publique...
Non, mais c'est pas une part, mais c'est intéressant d'étudier le ratio.
Quand on calcule la dépense privée,
oui,
de la même façon qu'on calcule la dépense publique, on arrive à 200% du PIB, rien que pour la dépense privée. Vous avez bien compris qu'il y a des trucs qui vont pas. C'est-à-dire que la dépense publique, vous savez, elle pourrait être supérieure à 100% du PIB. Je dis pas qu'il faut le faire, mais enfin, il y aurait toujours plein d'activités privées. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les trois quarts de la dépense publique, ça alimente la dépense... Les retraités, c'est les ménages privés qui font les courses auprès du privé. Donc ça alimente y compris l'activité du privé.
Ça alimente la croissance.
C'est pour ça que la cure d'austérité qui est préconisée, bien entendu, ça va avoir des effets négatifs sur l'activité. Donc on va le risque qu'il y a en Europe aujourd'hui, c'est un risque de récession. Alors que les États-Unis,
une partie de l'Europe est déjà en récession.
Les États-Unis mènent des politiques de relance très massives et ça marche plutôt. Un dernier point, moi je suis pour supprimer, donc je suis pour qu'il y ait moins de pauvres, moins de dépenses pour les RSA. puis par ailleurs, il y a des dépenses publiques qui sont pas comptabilisées pour une large part dans la dépense publique, hein, qui sont les dépenses fiscales, hein, donc notamment toutes les réductions aveugles d'impôts pour les entreprises. Donc là, on a une politique bien libérale qu'on
connaît. Ça ne nous aide pas.
Dont l'efficacité,
Est-ce que vous êtes pour durcir encore les conditions de l'assurance chômage? Parce qu'il l'a dit, ça.
Mais ça fait 5 fois là qu'on va le faire depuis le début de Macron. Dis donc, il y a une cible là.
La durée d'indemnisation sans toucher au montant.
Il parle pas de hausse d'impôts. Jusqu'à quand il parle pas de hausse d'impôts, Bruno Le Maire? Il nous reste 30 secondes là-dessus.
Jusqu'à ce qu'il soit sous pression parce que ça va et que la prochaine agence de notation va noter, donc il va dire aïe, il faut que j'y aille.
Donc au printemps, on relève la TVA parce qu'on commence à entendre parler de rehaussement du taux de TVA. Enfin,
La TVA, c'est effectivement la plus efficace.
Les gens sont quand même pas bêtes.
Ils ont compris, et il leur a dit ce matin, Bruno Le Maire, il y a eu le quoi qu'il en coûte, il y a eu les boucliers, maintenant, il faut économiser. Et là où je ne suis absolument pas d'accord avec vous, vous ne touchez pas aux entreprises. Ce matin encore, l'INSEE vous dit, heureusement que pendant cette période de relance, qui fait que notre pays est moins puissant que les autres pour repartir, les entreprises ont recruté et investi. Et elles ont tellement recruté qu'on a un problème de productivité. Et le modèle social français, il repose sur quoi essentiellement? Je n'ai pas votre connaissance économique à tous les deux, mais un, la productivité, et deux, la natalité.
Bon, la productivité, elle n'est pas au rendez-vous, alors.
Mais qu'est-ce qui se passe alors? On devait avoir une politique qui favorise la productivité.
La productivité, elle baisse.
Vous allez taper sur les entreprises pour augmenter la productivité.
Mais je ne propose pas de taper sur les entreprises. Je vous propose de taper sur la finance. D'abord, ce qui n'est pas. Vous savez, moi, je défends l'entreprise. Je défends un modèle d'entreprise qui n'est pas sous contrôle de la finance. D'accord? C'est la différence qu'il y a entre nous. D'accord? Donc, moi, je défends un modèle d'entreprise partenariale dans lequel. Vous savez, pour moi, je suis pas un radical. Pour moi, le modèle, c'est le modèle allemand, où les salariés, ils ont la moitié des voix dans les entreprises de plus de 2000 salariés. Et ça change tout. Et ça change tout dans la direction de l'entreprise.
La société coopérative, c'est extrêmement bien.
Mais je ne parle pas d'entreprise partenariale.
Juste, je veux vous dire, moi, je suis baigné de culture militaire. Et vous savez, chez les militaires, il y a une chose qui est assez simple. On dit, les Américains, ils ont 14 porte-avions. Alors, on peut être plus fort qu'eux, mais à un moment, il faut regarder quel est le rapport de force. Depuis 1974, la loi ERISA, on a fait en sorte que les Américains financent leur retraite et leur système en injectant énormément d'argent sur les marchés financiers. Le monde est financiarisé. On n'est pas forcément d'accord avec ça, mais c'est un ainsi que ça fonctionne.
Alors non, ça, faut on ne vous mettra pas d'accord sur le sujet, et c'est le rappel des titres.
Vous amenez un peu plus l'État.
Allez, on en parlera pendant la pub.
Allez, 19h31, sans
problème.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
19h35 sur BFM Business, on va reparler des agriculteurs qui font remonter la pression à nouveau sur le gouvernement. Nous sommes avec Christophe Rameau, Nathalie Janson et Jackie Isabello. Donc la FNSEA a reporté une réunion qui était prévue demain à l'Élysée. En revanche, elle ira quand même voir Gabriel Attal demain matin, mais on sent l'impatience monter à nouveau, ce qui pourrait aussi faire causer aujourd'hui. C'est ce qui va se passer jeudi au Sénat.
Oui, parce que jeudi, il y a le fameux CETA, projet de CETA, vous savez, traité de libre-échange entre l'Europe et le Canada, qui va être soumis au vote des sénateurs. Ça risque de ne pas passer à cause de la majorité LR. Et alors ça a mis hors de lui. On l'a rarement vu comme ça, faut dire. Franck Riester, le ministre du Commerce extérieur, qui était ce matin sur BFM Business, écoutez.
C'est un mauvais coup pour notre économie, pour notre souveraineté et pour notre agriculture. Et c'est hallucinant entre nous.
De ne pas le ratifier.
C'est hallucinant entre nous que la droite, les sénateurs de droite, alors beaucoup sont mal à l'aise et je ne renonce pas de les convaincre de voter le texte jeudi. C'est fou, sidérant que les sénateurs de droite s'allient avec les communistes sur un sujet économique et commercial et reprennent une partie de leurs argumentaires. Oui, c'est bon aussi pour notre agriculture. C'est bon parce que nos producteurs exportent et ont vu leurs exportations bondir depuis la mise en œuvre de cet accord.
Alors, il faut quand même expliquer le paradoxe, parce que c'est vrai que l'accord avec le Canada a rapporté près de 400 millions d'euros à l'agriculture française, mais ça concerne les filières laitières et viticoles. Mais en revanche, les éleveurs français qui sont vent debout le sont parce qu'il y a des importations de viande à des coûts de revient très inférieurs et des méthodes un peu douteuses. Donc pour les éleveurs bovins, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Nathalie Janson.
Bon, c'est pas très sympa pour nos amis canadiens de dire qu'ils ont des méthodes douteuses quand même. Moi, j'imagine qu'il faudra des méthodes moins strictes. Moins strictes, pardon. Moins strictes. Oui, moins strictes. Ils ont effectivement des. Bon, ce qui est effectivement le paradoxe. Enfin, voilà, si on voulait une confirmation qu'en France, le libéralisme, ça n'existe pas, bah, je pense que ça, c'est une bonne façon de le montrer. C'est-à-dire que même la droite en France est capable de rejeter un accord de libre-échange, qui est quand même l'exemple le plus significatif.
Ce qui est quand même incroyable, c'est le deux poids, deux mesures sur cette question des traités de libre-échange, où il y a un mois, Emmanuel Macron, tout le monde s'empresse de dire, sous la pression des agriculteurs, on ne touchera pas, on ne ratifiera pas l'accord Mercosur. Et là, ouvre les bras, grands ouverts au traité CETA avec les Canadiens.
Oui, alors, faut savoir, ce qui est quand même assez déplaisant quand même, normalement les traités de libre-échange doivent être ratifiés par les parlements. Oui. Là, ça fait 7 ans que ce traité n'est pas ratifié par...
Voté à l'Assemblée en 2019.
Non, mais il n'est pas ratifié, mais donc ça ne suffit pas, il faut qu'il passe au Sénat. Ouais. C'est pour ça qu'il passe au Sénat.
C'est pour ça qu'il passe au Sénat.
Personne n'a voulu qu'il y aille.
Il y a 17 pays seulement qui l'ont ratifié. Oui. Donc il y a plein de pays, une dizaine, qui n'ont pas... L'Italie ne l'a pas ratifié. La France ne l'a pas ratifié.
Non, mais alors en revanche, on précise, Christophe, il était appliqué ce texte de manière provisoire.
Voilà. J'ai bien compris, mais un traité qui n'est pas ratifié, qui est appliqué de façon... Oui, ce que j'ai... Enfin bon, la souveraineté du dans tout ça, vous voyez ce que je veux dire? Bon, très bien. Mais le vrai problème, hein, c'est que là, on a une ultime étape, hein, c'est un peu le chant du cygne des partisans du libéralisme qui nous disent alors attention, hein, parce que les chiffres qu'on brandit sur le thème, ça a favorisé le commerce, etc. Mais en fait, c'est en valeur, mais vous savez, entre-temps, il y a eu de l'inflation. Oui. Quand on regarde en volume, sur les 10 dernières années, ça a augmenté de l'ordre de 1%. Hein, d'accord, vous voyez ce que je veux dire? Donc, passons. Mais le gros problème, c'est notamment un problème sur l'écologie. Il y a un problème sur les normes sanitaires, notamment dans l'agriculture, d'accord. Donc les hormones, certains traitements traitements
sanitaires,
voilà, que le Canada respecte pas. Donc il y a une
honte.
Il y a un problème sur, parce que il y a un gros problème sur l'écologie. Enfin, on sait, je sais pas. Enfin, il semblerait quand même que l'horizon de une des boussoles de notre siècle, ça doit être la transition écologique, ça doit être de réduire les gaz à effet de serre. Vous croyez sincèrement qu'on va réduire les gaz à effet de serre en augmentant les transports de marchandises, notamment les transports de plastique, puisque c'est ça qui est en jeu, plastique, produits pétroliers, d'accord, produits carbonés. C'est pas très joli pour l'environnement, hein. Alors tout ça au nom du business et du libre-échange.
Je trouve ce qui est dommage, c'est que des grandes choses qui sont dans ce traité, eh bien, il y a des choses qui vont dans le sens de deux choses intéressantes. Un, il y a quand même énormément de secteurs agricoles qui sont valorisés dans ce traité. Deux, il y a une justice commerciale qui pourrait se dessiner, qui sortirait du giron des instances traditionnelles qui ne fonctionnent pas. Donc apparemment,
préciser le propos, c'est des juridictions privées. C'est très gênant, hein.
Bien sûr. Mais vous savez, les chambres de commerce, ce sont des entrepreneurs qui les gèrent, et nous, on est plutôt pour. Donc une instance. Et puis le troisième point qui est très important de mon point de vue, c'est que la militarisation de l'économie telle qu'elle se dessine, eh bien, fait qu'il faut désarimer le commerce international et réarimer, eh bien, des pays qui sont alliés. Et nous, eh bien, pour continuer de développer les nouvelles technologies, les batteries, réindustrialiser la France, on a besoin des terres rares, ou des métaux stratégiques, comme on dit.
Et c'est un des volets de cet accord.
Qui sont dans cet accord et qui sont proposés par le Canada.
On n'en a aucun sur notre territoire.
Lithium, nickel. Je suis assez d'accord avec vous. Là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'on l'applique, que ce soit pas ratifié démocratiquement. Moi aussi, ça me gêne. Mais par contre, il faut l'appliquer, parce que d'un point de vue géopolitique, eh bien, c'est extrêmement important qu'on renforce ce lien d'amitié au-delà de la cousinade, hein, qui fait que les Québécois et les Français sont de très bons amis, parfois les meilleurs ennemis. Pour avoir travaillé très longtemps avec eux, je le sais. Voilà, donc moi, j'attendrai à ce qu'il soit quand même appliqué. Après, subsiste tout un tas de problèmes avec ces traités. Mais aujourd'hui, entre la fin du mois et la fin du monde, ce problème est loin d'être résolu. Et on s'aperçoit que les opinions publiques regimbent énormément lorsqu'il s'agit de les appliquer tel qu'on veut le faire dans l'agriculture notamment.
Nathalie, parce que même si Christophe remet en doute ces chiffres, parce qu'évidemment l'inflation est passée par là, l'enjeu est de taille quand même. Les exportations françaises à destination du Canada sont passées de 3,2 milliards à 4,2 milliards entre 2017 et 2023.
De toute façon, les traités de libre-échange, c'est toujours une bonne nouvelle par rapport au renforcement des liens. Enfin, comme Jacques Isabello vient de le dire, quoi. Je pense qu'on peut pas. C'est un surtout au niveau géopolitique aujourd'hui, c'est quand même un axe important. Et de toute façon, bien évidemment, le commerce, on ne va pas mettre en permanence en opposition le commerce et l'écologie. Je ne pense pas que nos amis canadiens soient des pires anti-écologie que nous. Et voilà, il faut simplement, on a des timings et des priorités différentes, il faut l'accepter. Voilà, ça ne va pas être préjudiciable. Enfin, je ne vois pas en quoi le commerce mondial n'a jamais été préjudiciable au développement humain. Donc,
ouais. Bah non, mais ce que vous prenez, Christophe, c'est sortir de la mondialisation.
Oui, mais ce n'est pas...
Mais vous savez, les États-Unis mènent une politique protectionniste.
La Corée du Nord
aujourd'hui,
a sorti de la mondialisation.
Hein. Les États-Unis, sous Trump, mais aussi avec le gentil Biden, eh bien en fait, ils ont fait un tournant protectionniste. Ils mènent une politique industrielle massive pour réindustrialiser. La Chine, j'en parle pas, ils le font historiquement. Et en Europe, alors, il y a Bruno Le Maire qui dit, oui, il faut réindustrialiser. Et vous savez ce qu'il propose concrètement dans sa fameuse interview? Il dit, pour que l'épargne se dirige vers l'industrie, il faut, la priorité des priorités, c'est de construire le marché des capitaux européens.
Oui, voilà.
Et donc, la politique, eh bien, là où la politique, là où les États-Unis ont compris, et les Chinois à leur façon, et je ne défends pas le modèle chinois, mais ils ont compris qu'il y avait besoin, y compris pour soutenir l'initiative privée, pour lui donner des perspectives de long terme, et pas simplement des logiques de court terme financiarisées, il y a besoin de pilotage public, parce que c'est le public.
L'alliance de marché de capitaux, c'est ce qui peut donner la puissance économique et financière à l'Europe.
Ça va renforcer les logiques financiarisées, ce marché des capitaux. C'est exactement l'inverse de ce qu'il faut faire. Il faut favoriser les aides d'État. Les aides d'État, aujourd'hui, les aides d'État sont toujours dans les traités interdites.
Exactement. Les États-Unis, la raison pour laquelle, en fait, ils n'exportent pas grand-chose, c'est justement parce qu'ils exportent leur marché des capitaux.
Exactement.
Donc, eux, bon. Ils ne peuvent pas tout exporter.
Le privilège excessif du dollar, on sait très bien qu'on ne peut pas se le permettre aujourd'hui.
Ils l'ont parce qu'ils ont un marché très solide.
C'est quelque chose qui est excessif, on le sait.
Bruno Le Maire parlera de ce sujet. Bruno Le Maire va à Berlin demain. Le patronat allemand va s'exprimer, entre autres, sur ce sujet de l'union des marchés de capitaux.
Bon, on verra ça.
Et puis vote du Sénat, donc jeudi, qui sera suivi de très près, qu'on regardera en tout cas. Est-ce que vous voulez me dire un mot d'Atos? Il faut qu'on accélère un petit peu. Alors, mauvaise nouvelle. C'est qu'Airbus négociait depuis le début de l'année avec Atos pour éventuellement lui racheter ses activités Big Data et cybersécurité, ce qu'on appelle BDS. Et les informations de Mathieu Pecheberti ce soir nous disent que c'est perdu, mais que ça sent un petit peu le roussi finalement, des guerres franco-allemandes, des questions de prix, des questions d'accès à certains chiffres, ça pourrait ne pas se faire. Ça veut dire qu'en l'état actuel des choses, ni le Big Data et la cybersécurité, ni l'infogérance n'ont de point de chute chez Atos finalement.
Avec des gros enjeux industriels, voilà, on n'a plus beaucoup le temps là, mais enfin, il y a les élections européennes, il va falloir élire une nouvelle, quelqu'un d'autre à la présidence de l'Union européenne, Thierry Breton est peut-être sur les rangs, enfin, quel bilan accablant. Quel bilan accablant quand même, hein, c'est-à-dire qu'on a l'archétype. C'est pas. Alors, et d'ailleurs, petite parenthèse, quand on parle toujours des dettes publiques, enfin, vous voyez les dettes privées, hein, la croissance externe par l'endettement, etc. Enfin, vous connaissez à BFM, vous voyez ce que je veux dire, vous avez vécu ça un peu avec Amélie, ouais. Là. Bon, mais là, avec Atos, c'était une autre échelle. C'était une autre échelle.
Et donc,
c'est une autre échelle. Oui, tout à fait, c'est une autre échelle. Vous voyez ce que je veux dire, cette croissance externe par l'endettement, etc. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, sans véritable projet industriel, on est dans une logique de court terme où l'enjeu, c'est de convaincre les marchés à court terme qu'il faut continuer à acheter les actions d'Atos pour continuer. Mais vous savez, ça conduit souvent, hein, vous voyez ce que je veux dire, historiquement, ça conduit très très souvent. On va pas faire. Vous voyez ce que je veux dire, mais on a vraiment là, on peut empiler les exemples, hein, où ces logiques financières de croissance externe conduisent souvent à des catastrophes industrielles.
Vous savez, Christophe, c'est ce qu'on dit pour l'État. Ouais. Assez souvent, on dit l'État, alors la dette publique. Il y en a assez, faut arrêter. C'est un peu notre message.
Et la dette privée, vous la connaissez, la dette privée? Vous savez qu'elle est supérieure.
Oui, la dette, c'est comme l'alcool, le trop de ceci. L'excès, de manière générale,
on est d'accord.
C'est trop pour l'État, il y a trop de dette, on revient. Par rapport à Atos, vous le savez, on en avait parlé il y a très longtemps. Rachat de DXC, qui était une erreur stratégique pour eux, qui a donné un message au marché qui était contre-productif. Rachat de Bull, qui était maltraité. Jusque-là, Thierry Breton restructurait les activités qu'il rachetait. Bulle, pour des questions sans doute de relations au pouvoir public ou je ne sais trop quoi, pas restructuré. Deuxième message. Troisièmement, la transition avec M. Girard, très très mal gérée en interne. Il y a énormément de gens qui sont partis.
Vous avez eu trois DG en deux ans à peu près.
Voilà, exactement. Donc, erreur stratégique, erreur de gouvernance, et puis mauvais positionnement financier. Bah, c'est vrai que quand on dirige une entreprise, ça fait un peu beaucoup.
Oui, mais là, le problème, il est plus grave que ça, puisque les équipes d'Airbus qui sont en due diligence depuis quoi maintenant un an, disent qu'elles n'ont pas de chiffres sur les comptes. Ah, donc oui. Ce n'est même plus une question de prix, finalement. Bah, aujourd'hui, c'est devenu une question de confiance.
Les commissaires aux oui. comptes devraient mettre qu'elles le dossier au procureur de la République.
Exactement,
ils ont... c'est ce qui devrait se passer.
Ils ont une divergence de point de vue entre au sein du groupe Airbus aussi sur le sujet, apparemment.
Mais là, ils essayent de récupérer cette activité qui est stratégique du fait des grands calculateurs et de tout un tas de choses. Mais cette entreprise, elle est foutue par tous les messages qu'elle
délivre. De toute façon, si les négociations ne vont pas jusqu'au bout, Atos va être précipité dans le gouffre.
Et donc, de la même manière, nous, on dit... Il faut développer une activité cloud. Vous allez voir ce que vous allez voir sur l'intelligence artificielle. On va casser la baraque et on va investir des milliards. Voilà. Manu Le Chypre, ce week-end, présentait un bouquin d'une femme informaticienne qui a développé une activité hallucinante qui aurait pu faire rayonner la France. Eh ben, l'ensemble de l'appareil d'État, bien formé, a fait mourir cette boîte et a privilégié des activités dont on a vu qu'il n'était pas.
En tout cas, on rappelle quand même, Jackie,
à l'inverse de ce qu'ont fait les Américains,
Atos. Oui, absolument, vous avez raison. Mais Atos est censé rembourser 3,5 milliards d'euros de dettes d'ici fin 2025. Donc, il y a urgence.
Atos qui présentera ses résultats mercredi, peut-être l'occasion pour les dirigeants de nous en dire un petit peu plus sur ce énième épisode du feuilleton. 10 secondes.
Boubou Breton est un ancien ministre de l'économie.
Oui. Il fallait qu'il le lise comme ça.
Voilà.
Peut-être candidat à d'autres fonctions.
C'est pas un gestionnaire. Oui.
J'ai 3 minutes pour vous demander comment est-ce que vous regardez le score de Vladimir Poutine hier, élu 87,28% des suffrages, en attendant les bulletins en provenance de l'étranger. Hein,
Le taux de participation, il était de combien finalement?
Je ne sais pas, je n'ai pas trouvé le chiffre.
Il était au-dessus de 70%. C'est ce qu'il disait, mais je n'ai pas réussi à trouver le chiffre.
Donc. Question d'un mot, l'économie russe semble, d'après les chiffres officiels, continuer à tenir coûte que coûte. Faut-il perdre pour mettre l'économie russe à terre? Est-ce qu'il faut taper encore plus fort? Est-ce qu'il faut un 12e, 13e, 14e train de sanctions? Ou est-ce qu'il faut attendre que le temps fasse ses effets finalement?
Mais les sanctions ne fonctionnent pas. Exactement. Les sanctions, de toute façon, elles n'ont pas eu lieu. Donc, elles ont eu lieu
12 trains de sanctions ou 13, je sais
oui,
plus.
Oui, mais il y en a plein qui n'étaient pas regardés. SWIFT, qui ne devait plus avoir accès au financement.
Ça, c'était la grande promesse.
Il y a eu les plus grosses banques qui permettaient en fait de payer le gaz, elles ont toujours fonctionné, donc elles n'ont pas été coupées de SWIFT. Il y en a certaines, mais pas toutes. Le gaz, il a continué à circuler, on a continué à en acheter, donc bon, les
avec des prix de l'énergie qui ont été portés.
Exactement. Donc bon, moi je, alors effectivement, la vie est sans doute plus dure. Enfin, je ne vais pas négliger non plus le fait que bon, après effectivement, il peut y avoir des enrobages de chiffres, hein, parce que de toute façon, quelle que soit l'économie, les chiffres sont les chiffres qu'on veut bien présenter. Donc bon, mais ça, je dirais qu'on a à peu près tous à armes égales. Alors peut-être qu'on le fait un peu plus quand on est dans une économie de ce type-là, parce qu'on est en économie de guerre et que c'est plus compliqué. Mais honnêtement, les sanctions, elles ont eu lieu, mais elles sont pas complètement efficaces, puisque on a continué à payer avec la Chine par le via un autre système de paiement. Donc bon, l'Inde a continué à acheter. Enfin, la Russie effectivement a eu des conditions plus difficiles, mais ils ont pas été.
Christophe, dépendait beaucoup plus de l'énergie russe que eux ne dépendaient de nos achats de cette fameuse énergie.
Oui, mais l'économie russe a réussi à orienter ses exportations vers l'Inde, vers la Chine, etc.
Et je pense que
l'enjeu à long terme, l'agression du
avec des prix qui ont augmenté. Avec notre embargo en plus.
Oui, tout à fait, voilà. Donc, mais je pense qu'il y a des enjeux. D'abord, il y a des enjeux à long terme. On voit bien qu'on est dans un monde de tension. Donc, il faut de l'argent, notamment pour la défense, etc. Donc, c'est de la dépense publique. Et puis, par ailleurs, bon, après, il y a des enjeux géopolitiques. Moi, je pense que, je suis assez chevènementiste sur le sujet. C'est-à-dire, je pense qu'il faut faire attention, à la fois, bien entendu, envoyer un signal très clair sur le fait que l'agression russe en Ukraine est absolument condamnable à tout point de vue. Et puis, à la fois, faire attention, à garder une perspective de long terme visant à associer ce grand pays.
Alors justement, en termes de perspective de long terme, Jackie, puisque vous parliez des États-Unis, je vous rappelle que l'électricité coûte 4 fois plus cher en Europe aujourd'hui qu'aux États-Unis et que la part de l'industrie dans le PIB européen s'effondre.
Est-ce que c'est une question insoluble? Est-ce qu'on met l'économie russe à terre ou est-ce qu'il faut.
La question que j'avais posée.
Là-dessus, il faut lire le dernier bouquin d'Emmanuel Todd qui s'est fait taper dessus par tout un tas de gens, mais qui est quand même un anthropologue exceptionnel, quoi qu'on en pense, sur cet État. Effectivement, ce qu'a fait la Russie à l'Ukraine, c'est très condamnable et c'est tout à fait scandaleux. On nous promettait la mise à terre du rouble. Madame Nabioulana, qui remet en jeu son mandat, a fait un travail exceptionnel. Formée à Yale, elle est arrivée à créer un marché parallèle qui a tenu la monnaie. Ouais. C'est quand même très important. Ici, on parle d'économie. Moi, j'attends le rapport de qui est le grand perdant là ? Ben, je peux vous dire que c'est la France qui est le grand perdant. Parce que toutes les activités qu'on a vendues à bas prix, parce que bien installées pour des raisons qui remontent au général de Gaulle en Russie, qui était un grand partenaire de la France, économiquement, ça sera une catastrophe pour nous. Après, je vous le disais tout à l'heure, qu'est-ce qui s'est passé en 2014 ? Les Russes, en 2014, nous achetaient énormément de matières agricoles. Comme on les a sanctionnés, eh bien, ils sont devenus exportateurs de porc. Oui. Ils ont désarrimé leur économie et ils ont recréé un modèle où ils privilégient le modèle intérieur. C'est ce qu'ils ont fait avec Swift. Ils le font avec le modèle technopolitique. Tous leurs outils aujourd'hui sont technologiques, sont autosuffisants. Et la Russie est redevenue forte avec tous ses alliés, notamment qui s'appellent la Chine, l'Inde et tous ceux qui ne votent pas comme nous.
Et on a renforcé l'économie américaine.
L'économie russe n'est pas mis à bas aujourd'hui.
Allez, il nous reste un peu plus de 2 minutes. L'extra time, comme tous les soirs, pour terminer cette émission. Vos humeurs du soir, coup de gueule, coup de cœur en 30 secondes chrono. Christophe, voulez-vous commencer? Vous avez fait un peu de promo, tiens, Christophe, dans ces 30 secondes, si j'ai bien compris.
Là, je ne vais pas parler du bouquin. Là.
Alors.
Allez-y, 30
secondes. Comment dire? La chose que je veux dire, parce que Bruno Le Maire, et puis le Premier ministre, a à nouveau mis en ligne de mire la réforme de l'assurance chômage. Notamment, alors, il y a une réforme qui est quasiment déjà actée, enfin, elle n'est pas votée, c'est la SS, de la suppression de l'ASS. Et alors l'ASS, il y a des choses techniques, mais le montant de l'ASS, c'est quasiment le même que celui du RSA. Ouais. Mais là où il va y avoir de grosses différences, et c'est à deux niveaux. Les modalités de calcul sont différentes, notamment quand vous avez un conjoint qui travaille autour du SMIC. Hein, et donc, quand vous avez un conjoint qui travaille autour du SMIC, vous allez perdre entre 100 et 150 euros.
Ça clignote, ça sonne, c'est terminé, le message est passé. Jackie Isabello.
Alors moi j'ai lu un article dans les journaux de l'Est de la France, du groupe EBRA comme il s'appelle, sur une opération qui démarre là du 23 au 29 et qui s'appelle les rendez-vous de la retraite. Donc pour dire aux gens, règles ont changé, vous allez être reçu dans les agences pour comprendre toutes les nouvelles règles de changement des retraites, de calcul des retraites, de fin du bonus malus.
Je vais m'inscrire alors. Mais vous êtes si proche de la retraite que ça, Jackie?
Alors pas moi, mais je trouve que les gens sont très inquiets. Vous avez vu, je lisais dans ce papier justement que la CNAV ne répond pas au téléphone. Oui. Et la Gircarco et tous ses partenaires met en place cette opération qui est, je trouve, une opération très intéressante.
Très belle initiative pédagogique sur cette réforme des retraites, effectivement. Nathalie Janson, 30 secondes Nathalie, c'est à vous.
Alors, je vais faire remonter un propos qui m'a été signalé par un auditeur avec qui j'échange régulièrement et qui m'a dit, mais est-ce que vous comprenez pourquoi on fait la promo des billets TER à 1 euro alors que c'est super polluant? Enfin, en tout cas, c'est pas très très écologie compatible, c'est pas un peu de la vente à perte tout ça, alors qu'on est en train de condamner les supermarchés à ne pas faire plus de 34% de promos sur les produits d'hygiène. Donc il m'a dit, moi j'ai l'impression quand même on marche un peu sur la tête, et j'ai trouvé ça tellement bien que du coup je relais.
Tellement juste, et oui, on marche un peu sur la tête.
Et ben voilà, dans les théories coup de gueule, vos Uber du soir. Merci à tous les trois d'être venus ce soir sur le plateau de BFM Business. Nathalie Janson, Jackie Isabello et Christophe Rameau, à très vite, avec grand plaisir évidemment, sur BFM Business. 19h55, bah c'est fini pour aujourd'hui.
Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin, ceci dit, pas de panique. Le débat est à retrouver, ça s'affiche sur vos écrans avec le QR code, sinon c'est bfmbusiness.com et sur toutes les plateformes. Et puis bien sûr, on se retrouve demain.
Absolument, demain, 18h pour de nouvelles aventures. Dans un instant, Tech & Co, François Sorel et toute son équipe, bien sûr. Très bonne soirée.
Bonne soirée.
Good evening business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie.